voix, je pourrais ouvrir un livre à cette heure-là. Mais je préfère écouter l'agité du local.
C'est vrai, des belles histoires. Mais aussi de beaux personnages, qui sont en fait des vrais gens d'ici.
Bonjour à vous, amis auditeurs. On continue aujourd'hui dans l'agité du local notre couverture des élections européennes. Aujourd'hui, à notre micro, Maël Ranou du parti Les Écologistes, candidat sur la liste Les Écologistes pour les élections au Parlement européen. Lucie, tu es à mes côtés aussi tout au long de cette émission. Comme toujours, on profite de ces derniers jours en ta compagnie. Bonjour, comment vas-tu ?
Bonjour Margot, bonjour à tous. Ça va très bien, merci.
Tout à l'heure, tu nous fais l'actu en bref et puis la météo. Ensuite, on se rend du côté de Nantes pour notre reportage Pensée locale de la semaine. C'est une rediffusion de la toute première saison de ce programme. Et aujourd'hui, nous découvrons une ferme urbaine au plein cœur de Nantes, un espace collectif et pédagogique qui se crée de plus en plus à travers la France. On terminera avec humour et avec le franc-parler de Priscilla Mignard, qui est en quelque sorte l'avocate de l'agité du local, qu'on est en tout cas toujours bien content d'accueillir dans cette émission. Bienvenue à vous, amis auditeurs. Je suis Margot, vous arrivez à temps pour passer ce moment avec nous. Et je vous propose d'ailleurs de commencer tout de suite avec l'entretien du jour. En collaboration avec Radio Fidélité, nous nous tournons vers les différentes listes des groupes et des partis candidats aux élections européennes qui auront lieu le 9 juin. Maël Ranou, bonjour, vous faites partie de la liste des écologistes menée par Marie Toussaint. Pour commencer, pour bien comprendre votre projet, j'ai envie de vous demander quel serait pour vous le bilan de ces 5 dernières années.
Alors le bilan est à la fois riche et un peu déceptif parce que bon, on avait la chance d'avoir un grand groupe vert, donc on a pu avoir une influence, mais on n'était pas non plus dans la majorité ni le groupe pivot, donc on n'a pas eu toute l'influence qu'on voudrait, si je peux dire. Mais c'est important de voir qu'avec un groupe de plus de 60 personnes, le groupe vert a vraiment pu influer sur une décision, notamment par exemple la reconnaissance de l'écocide, hein, même si fait qu'on peut maintenant condamner des entreprises ou des États qui respecteraient pas qui feraient des choses qui ne respecteraient pas en fait le climat et les générations futures. Donc ça permet vraiment de lier les décisions politiques, les actions et la protection de la planète. Il y a eu le combat sur le Green Deal, hein, le fameux, alors, qui était très attaqué, mais qui en réalité était un vrai gain social. Hein. Ceux qui l'ont attaqué, notamment en disant que ça attaquait les agriculteurs, ont rien compris. À mon sens, ils ont plutôt c'est plutôt un Green Deal qui protégeait les agriculteurs. Hein, c'est vraiment allier en fait le futur. Comment on peut avoir une agriculture soutenable, des gens qui vivent de leur travail, de la nourriture de qualité dans nos assiettes. Enfin, c'était vraiment le Green Deal était bien pensé pour ça, même s'il pouvait aller beaucoup plus loin à notre sens. Voilà le type de choses qui étaient intéressantes, mais à chaque fois, c'est ça. Il y a des choses intéressantes, mais qui s'arrêtent un peu au milieu du guet, ou voire, à la fin, là, malheureusement, on le voit quand on entend nos adversaires, un vrai recul. Hein, et on a vu notamment au Parlement européen, quand même, les extrêmes droites très fortement tenter d'amener le repli réactionnaire, par exemple, sur le droit des femmes ou sur les immigrés.
Alors aujourd'hui, dans le contexte actuel, et peut-être à partir de ce que vous venez de me dire, quelles seraient vos priorités pour les 5 prochaines années ?
Bah, nous, notre priorité, elle est assez connue. Hein. Les écologistes, ils font de l'écologie. Alors l'écologie, après, c'est comment on allie l'environnement, le social pour vivre sur une planète supportable. Mais donc, nous, c'est vraiment l'impératif écologique qui est climatique, mais pas que. Hein. C'est aussi la biodiversité, par exemple. Et ça, l'Europe, sur la question agricole, sur la question de la biodiversité, sur la question des animaux, l'Europe a un gros travail qui a été fait et qui permet quand même de... qui permettrait, si on mettait vraiment l'engagement européen, de changer les choses. Nous, l'enjeu, il est quand même majoritairement sur cette question écologique. Pour en donner un exemple concret, climatique, c'est sûr que si on prend des décisions en France pour réduire des choses sur l'essence, par exemple, sur la pollution atmosphérique, c'est sûr que les frontières n'arrêtent pas les nuages de pollution, n'arrêtent pas le CO2. Donc c'est important d'avoir une échelle très grande pour pouvoir faire des réglementations qui, à la fois, ne punissent pas les gens à l'intérieur, parce que voilà, si demain on interdit des moteurs mais qui sont autorisés en Allemagne, qu'il n'y a pas de frontières, ça va être compliqué. Donc l'Europe permet d'avoir une régulation vraiment sur un très grand état d'un continent pour pouvoir transformer les modèles et avoir un vrai impact sur le climat. Donc ça, par exemple, voilà, la question, il y a eu quand même des gros scandales sur le diesel au niveau européen, c'est le Parlement qui peut changer les choses là-dessus. Voilà, donc ça, c'est un exemple de choses qu'on peut faire au niveau européen. Nous, on va réaliser cette lutte-là pour l'environnement, mais, et je tiens à le dire, c'est une priorité de Marie Toussaint aussi, notre tête de liste, toujours connectée avec les questions sociales, c'est pour ça qu'on a des figures comme Priscilla Hidowski, qui avait quand même mené la lutte des Gilets jaunes à l'origine, hein, quand même, sur notre liste, c'est, par exemple, le veto social, dans ce qu'on veut inscrire dans les textes européens, c'est qu'aucun texte voté, aucune loi votée ne peut être défavorable pour les 10% les plus pauvres. Et ça veut dire que si on fait une loi, typiquement sur le carburant ou sur je ne sais quoi de ce genre, sur l'alimentation, sur il faut forcément avoir un mécanisme de compensation pour les plus précaires. Donc l'idée, c'est vraiment d'associer l'écologie et le social.
Avec les conflits que nous connaissons sur la scène internationale, comment vous envisagez la position de l'Europe ?
L'Europe, c'est peut-être bateau de le dire, mais en fait, c'est une réalité. L'Europe, c'est la paix quand même. Alors c'est la paix, mais pas à ses frontières nécessairement. Voilà, on le voit bien, comment l'Europe réussit à maintenir la paix dans le cercle européen, mais ça tangue aux frontières, ça tangue ailleurs. L'Europe a vraiment un rôle important sur la scène internationale. Elle doit soutenir l'Ukraine, évidemment, dans sa lutte, soutenir l'Ukraine dans sa lutte à terme pour peut-être adhérer à l'Union européenne. Hein. Alors, on est loin aujourd'hui. Hein. Il y a plein de conditions sociales, notamment, et économiques pour qu'elle puisse le faire. Mais on est vraiment dans cette posture très claire des Européens. On est pour une Europe qui intègre les pays frontaliers européens et une Europe qui défend la paix dans le monde et la démocratie. À ce titre, je parle de l'Ukraine, mais il y a le conflit, bien sûr. En Israël, Palestine. Et l'Europe a longtemps été un des plus gros soutiens de l'installation d'épuration d'eau, d'écoles en Palestine, bon aujourd'hui détruites. Il y a une diplomatie européenne importante à ce niveau-là, et ça permet d'avoir la voix, pareil, d'un très grand nombre d'États ensemble. Et peut-être, par exemple, je sais que ça se discute en ce moment, si l'Europe reconnaissait la Palestine, ça serait un changement important sur la scène diplomatique. Alors, on n'y est pas encore, mais c'est des choses où l'Europe peut faire des choses. Donc nous, on est vraiment sur une Europe de défendre la paix par la voie diplomatique, et en soutenant aussi économiquement certains pays en guerre à nos frontières.
D'un point de vue économique, et plus particulièrement l'économie européenne en elle-même, quels sont vos plans pour soutenir les secteurs les plus touchés par la crise actuelle ?
Alors, je vais juste dire au passage, quand même sur la défense, que c'est important penser la défense européenne. Ça ne veut pas dire faire une armée européenne unique, ça peut être ça dans très longtemps, mais en tout cas, penser à la défense européenne, c'est une chose importante aussi. Nous sommes un parti fédéraliste. Donc on n'est pas sur le repli de la France d'avoir son armée, l'Allemagne son armée, la Belgique son armée. On est plutôt sur l'idée d'avoir une défense européenne pensée conjointement. C'est important à nos yeux. Sur l'industrie, alors ça dépend de quel secteur on parle. Sur l'industrie, sur l'économie. Justement, on parle souvent du secteur industriel. Hein. Ce qui est important, en tout cas, c'est pas de créer une concurrence interne. Évidemment, si on libéralise tout de manière très, très effrénée, on va avoir une concurrence interne. D'autres pays, ça va créer plutôt des rancœurs et des haines qui sont absurdes, parce qu'on est plutôt tous alliés sur ce... Ouais, donc, la priorité, c'est de permettre la transition de l'industrie, la transition de l'économie vers quelque chose de soutenable. Donc ça ne veut pas dire qu'on va continuer à extraire du pétrole, par exemple, on va continuer à construire des mines au charbon, plutôt, c'est plutôt ça en Europe que le pétrole. Et nous, en effet, on ne veut pas défendre ce modèle-là, mais bon, c'est vraiment un modèle de transformation industrielle. Et la transformation, ça, pour le coup, c'est de la relocalisation, c'est aller vers des plus petites structures, c'est aller vers aussi beaucoup le réemploi. Et ça, on peut vraiment mener une politique de transformation, mais ça demande des changements lourds d'industrie. Et l'Europe a le poids, justement, économique pour ça. L'Europe a aussi le poids pour mener, et ça, elle ne le fait pas forcément. On a des normes environnementales en Europe, hein, c'est très bien. Merci. Elles peuvent être meilleures, mais elles existent. Il faudrait avoir des normes sociales sur les produits aussi. Et que des pays importent, si on importe quelque chose d'un pays hors Europe, qui fait travailler des enfants, ça, normalement, on a régulé un peu. Mais sur des salaires minimums qui ne sont pas respectables, sur les temps de travail qui ne sont pas respectables, il faudrait amener, de la même manière qu'il y a des normes écologiques, des normes de travail extrêmement claires pour ancrer dans le marché européen. Avec une taxation aux frontières, ce qui fait que les produits plus respectueux de la planète comme du social en Europe seraient moins chers et plus attractifs. Et donc, on pourrait payer les gens plus correctement.
Vous avez parlé relocalisation. La pandémie du Covid-19 a justement mis en évidence plusieurs défis au sein de l'Union européenne. Quelles leçons en tirer et quelles stratégies proposez-vous pour une meilleure préparation à l'avenir ?
Typiquement, ça implique pas de relocalisation. Sur le cas des masques, c'était flagrant. On arrête de produire des choses, on exporte beaucoup des productions à d'autres endroits. Mais le jour où on a une pandémie comme ça, qui est une zoonose à la base, quand même, qui est une question écologique aussi. Hein. C'est parce qu'on détruit des forêts, parce que on retrouve avec des conflits avec des animaux, leurs maladies, etc. De l'intérieur des forêts, c'est une zoonose, le Covid. Qu'on se retrouve avec une pandémie mondiale. Donc c'est quand même quelque chose d'assez fort. Et ça nécessite, en effet, de reconnaître certaines choses. Il y a des industries essentielles, je pense aux médicaments, aux masques, mais aussi alimentaires, en fait, en réalité. Et on le voit bien aussi sur la souveraineté énergétique. Hein. Même le nucléaire, dont on nous vend un mythe d'autonomie, on ne produit pas d'uranium en France, très très peu. Donc si on veut une autonomie énergétique, il faudra des filières européennes. Et je le dis aussi pour le renouvelable, hein, parce qu'en effet, si on a un moment arrêté de protéger et de financer vraiment l'industrie pour le photovoltaïque, et on s'est retrouvé envahi de photovoltaïque chinois, et c'est un problème. C'est un problème sur notre autonomie à terme. Donc voilà, il y a des endroits, c'est bien d'échanger des choses, mais il faut essayer de voir quels sont les... Enfin, je ne vais pas vous dire moi, aujourd'hui, honnêtement, c'est pas mon sujet de spécialité, mais il y a des secteurs stratégiques, l'énergie, l'alimentaire, la santé, sur lesquels il faudrait une grande industrie européenne, et là, on pourrait en effet faire quelque chose au niveau de l'Europe. Il n'y a pas, par exemple, que ce soit français ou italien ou slovaque, c'est à la rigueur, on s'en fiche, mais que ce soit dans l'Union européenne, ça oui.
Et pour terminer, quel est votre avis sur l'état actuel de la démocratie au sein de l'Union européenne ? Est-ce que votre parti souhaite s'engager pour la renforcer ?
Ah oui, complètement. Nous, on a toujours été très pro-démocratie européenne. Il faut quand même dire que le scrutin des élections européennes, c'est le scrutin le plus démocratique qu'on ait en France, puisque c'est la proportionnelle de liste. Alors, il faut faire plus de 5%, mais ça reste l'élection la plus démocratique où il n'y a pas de vote utile qui ait du sens. On vote pour la liste qu'on défend, qui défend nos idées. Et c'est le seul rang en assez en Europe. Le problème, c'est que derrière, il y a la Commission européenne, il y a une manière de faire la politique qui fait que le Parlement européen n'est pas entièrement décisionnaire. Mais malgré tout, c'est un espace démocratique extrêmement intéressant. Et d'ailleurs, cette manière de faire proportionnelle donne une manière de travailler qui est quand même originale, puisqu'on va chercher des compromis. Je vous disais, je suis pas toujours satisfait de tout, mais on arrive à faire des compromis. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'arrive plus à faire dans la politique française. Donc il y a vraiment intérêt à démocratiser l'Europe plus fortement, hein, mais ça veut dire démocratiser la Commission européenne, démocratiser d'autres choses, pourquoi pas un RIC européen, enfin, le terme RIC, c'est assez bon, mais un référendum, les initiatives citoyennes européennes, elles existent aujourd'hui, ça serait intéressant de développer avec un vrai pouvoir plus décisionnaire, voilà. Donc non, la démocratie européenne, il faut la renforcer, mais pas que européenne, en France aussi. Hein.
Eh bien écoutez, merci beaucoup. Je le rappelle, vous figurez sur la liste des écologistes menée par Marie Toussaint pour les élections européennes qui auront lieu le 9 juin prochain. À l'approche des élections européennes, la Maison de l'Europe en Mayenne nous offre une série de capsules rappelant différents points importants, nous permettant de mieux comprendre les enjeux actuels de l'Union européenne, les différents champs d'action du Parlement européen et nous explique différentes mesures récentes. Françoise Marchand, coprésidente à la Maison de l'Europe en Mayenne, nous parle aujourd'hui du changement climatique.
Pour lutter contre le changement climatique, que fait l'Union européenne ? Nous savons tous que la déforestation associée à l'agriculture et à d'autres changements d'affectation des sols est à l'origine d'environ un quart des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Les voitures, les camions, les navires, les avions sont pour la plupart alimentés par des combustibles fossiles. En vertu de la loi européenne sur le climat, les pays de l'Union européenne doivent réduire leurs émissions de gaz à effet de serre d'au moins 55% d'ici 2030. L'objectif est de rendre l'Union européenne neutre pour le climat à l'horizon 2050. Alors, la neutralité climatique consiste à n'émettre dans l'atmosphère que la quantité de gaz à effet de serre pouvant être absorbés par la nature, c'est-à-dire les forêts, les océans, les sols. Pour ainsi parvenir à un bilan neutre d'émissions d'ici à 2050, les pays de l'Union européenne devront considérablement réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et trouver des moyens de compenser les émissions restantes et inévitables. Il faut savoir que la France a consommé tout ce qu'elle avait le droit, je mets des guillemets à droit, tout ce qu'elle avait le droit de consommer le 7 mai de cette année. Là, nous sommes en dette climatique à partir du 8 mai ou depuis le 8 mai. Dans ses conclusions, le Conseil européen a souligné que la transition vers la neutralité climatique offrait d'importantes perspectives pour la croissance économique, les marchés, les emplois, le développement technologique. Les dirigeants de l'Union européenne ont demandé à la Commission de faire avancer les travaux sur le Pacte vert pour l'Europe. Pacte vert constitué par une série de politiques dans les domaines du climat, de l'énergie, du transport, dont bon nombre de textes ont déjà été adoptés depuis 2019. Ils ont également pris acte de la nécessité de veiller à ce que la transition écologique soit efficace au regard des coûts, ainsi que socialement équilibrée et équitable. Alors, un an plus tard, en 2020, les dirigeants de l'Union européenne ont franchi une nouvelle étape sur la voie de la neutralité climatique à titre d'étape intermédiaire vers l'objectif à l'horizon 2050. Ils sont convenus de réduire de moitié par rapport au niveau de 1990 les émissions de gaz à effet de serre de l'Union européenne d'ici 2030. Donc ce ne sont plus 55% à l'horizon 2050, c'est la moitié à horizon 2030. Les dirigeants de l'Union européenne ont invité la Commission européenne à présenter des propositions afin que les pays puissent atteindre l'objectif fixé à l'horizon 2030, notamment en améliorant les normes en matière de finances vertes, en renforçant le système d'échange de quotas d'émissions de l'Union européenne, en stimulant une innovation respectueuse du climat, veillant à l'équité et au rapport coût-efficacité. En juillet 2021, la loi européenne sur le climat, élément clé du pacte vert pour l'Europe, est entrée en vigueur, un mois après son adoption par le Conseil. Les pays de l'Union européenne sont désormais légalement tenus d'atteindre les objectifs climatiques à l'horizon 2030 et à l'horizon 2050.
Je crois bien que nos humeurs s'accordent très bien, Lucie, aujourd'hui, puisque le titre que j'ai choisi pour nous est plutôt posé. J'ai envie d'écouter Jessie Reyes, une artiste canadienne avec un style plutôt R&B, néo-soul, pop. On écoute tout de suite Same Side.
How come I can't leave you? Talk to myself at night, wondering why I feel like I am tied down to someone who's making me cry more than making me smile. Leave ya, just make it through the night, lying to myself, saying I'll be fine. I don't want you, I hate you, I think, but I don't wanna be alone either. You're such an asshole, but I see a prince. And I'm a good girl, but you see a bitch. I wanna make love, you wanna burn a bridge. So I wish I was a bad guy, so we could just be fighting on the same side. Yeah, you're such an asshole, but I see a prince. And I'm a good girl, but you see a bitch. So I wish I was a bad guy, just to be with you. Just to be with you. How come I won't believe you? You said all your goodbyes. You said that you would be out my life if I could just let you go, let you be on your own. What love I need you. You used to be paradise. You used to be where I would go to hide from people who treat me the way that you treated me. I don't believe you. You're such an asshole, but I see a prince. And I'm a good girl, but you see a bitch. I wanna make love, you wanna burn a bridge. So I wish I was a bad guy, so we could just be fighting on the same side. Yeah, you're such an asshole, but I see a prince. And I'm a good girl, but you see a bitch. So I wish I was a bad guy, just to be with you. Sorry, I'm not your ex. I'm sorry, I'm not who you thought you'd get. I'm sorry, I'm lacking self-respect. Should've left when you started hopping beds. I'm sorry, made this world in my head. I'm sorry, I don't wanna quit this yet. I'm sorry, I swear that I tried my best. I'm sorry, can you be sorry instead? Just to be with you.
Et on commence ces brèves par parler de l'intervention des pompiers au lycée Douanier-Rousseau à Laval ce jeudi 23 mai matin, suite à une explosion vers 9h20. L'ensemble de l'établissement a été évacué dans un premier temps, puisqu'un bruit d'explosion aurait été entendu et une odeur de soufre se serait également dégagée ensuite. La direction évoque, je cite, « selon toute vraisemblance, un acte de malveillance, une bouteille contenant un mélange réactif ayant été découverte dans un couloir ». Fin de citation. Des élèves ont été examinés par les pompiers à bord d'un véhicule de secours à l'entrée du lycée, et à l'heure où nous enregistrons ces brèves, les cours devraient malgré tout pouvoir reprendre plus ou moins normalement en début d'après-midi. Ensuite, on retourne un petit peu en arrière. Hier, mercredi 22 mai, Saint-Berthevin a accueilli le meeting régional de Valérie Ayer, tête de liste du parti Renaissance aux élections européennes. La salle Le Reflet a ouvert ses portes à 350 militants et curieux, venus pour certains depuis la Sarthe, et je cite, pour soutenir les autres militants dans cette campagne difficile, selon ce qu'explique Cyril Bouaziz, président de l'Assemblée départementale de Renaissance dans la Sarthe, qu'il expliquait donc dans les colonnes du Ouest-France. Le Premier ministre Gabriel Attal était également présent pour montrer son soutien à la candidate et a d'ailleurs pris la parole lors du meeting. Parlons un peu tri et gestion de déchets. Pour la suite, au pays de Cran, l'accès aux déchetteries sera régulé à partir de juillet 2024 avec des systèmes de reconnaissance de plaques. Il faut donc s'inscrire pour pouvoir en profiter et les inscriptions sont ouvertes dès aujourd'hui. D'après la communauté de communes, l'idée est que ce service soit accessible exclusivement aux habitants et aux professionnels intervenant sur le territoire pour entre autres assurer une meilleure sécurité et améliorer la disponibilité des agents sur le site. Pour avoir toutes les informations, rendez-vous sur le site www.paysdecran.fr. On part au pays de Mélégré pour terminer. Le duo folk rock Ferdinand sera bientôt de retour sur scène, mais pas n'importe comment. En fait, le groupe intervient régulièrement sur le territoire et il parraine la classe orchestre du collège Le Grand Champ de Grès. Et pour le prochain concert du duo, la première partie sera assurée par cette même classe orchestre de Grès-en-Bouère. Et pour un projet donc pédagogique où les élèves d'une même classe sont réunis autour de la création d'un orchestre, ils sont aussi accompagnés par des professionnels du secteur musical pour les aider à évoluer. En tout cas, pour profiter du spectacle avec Ferdinand, c'est rendez-vous vendredi 31 mai à 20h dans la cour du collège Le Grand Champ de Grès-en-Bouère. Et les tarifs sont de 5 euros, 6 euros ou 10 euros. La réservation est obligatoire à c.artuis@paysmelegre.fr. Côté météo, cet après-midi, on reste sur des nuages un peu partout sur le territoire, avec quelques pluies qui vont gagner tout le territoire dans la soirée et nous amener des averses orageuses qu'on commence un peu à connaître. Niveau température, il fait bon malgré tout, avec 18-19 degrés, voire 20 degrés à Château-Gontier cet après-midi, et entre 15 et 17 degrés dans la soirée. Le ciel, cette nuit, devrait commencer à se dégager cependant pour nous laisser des éclaircies sur toute la moitié ouest du département demain matin et des températures entre 13 et 15 degrés. L'après-midi, l'espoir revient, le ciel devrait être dégagé sur toute la Mayenne, même s'il risque d'y avoir quelques gouttes vers Le Haut et Villaines-la-Juhelle. Et l'air devrait être agréable avec 17 à 19 degrés l'après-midi, 16-18 degrés le soir, avec un grand ciel bleu tout dégagé. C'est parti, Morgane va pouvoir préparer l'appareil argentique parce que le coucher de soleil de demain devrait être sympa.
J'aime cette image du coucher de soleil, Lucie, merci beaucoup. La création d'une ferme urbaine et pédagogique au cœur de la ville, il s'agit de la ferme du Contrevent, située au quartier Boissière dans le nord de Nantes, qui est initiée par 5 cofondateurs et cofondatrices en 2020. Ils sont 5 jeunes à cultiver des légumes, des herbes aromatiques, des fleurs et des fruits avec l'appui des adhérents de l'association. Ce projet a été inspiré par le principe de la permaculture. Leur ambition est de produire à l'échelle du quartier, mais également de créer un espace collectif et pédagogique pour celles et ceux qui souhaitent mettre les mains dans la terre. C'est notre reportage Pensée locale de la semaine, une rediffusion d'un reportage signé Antoine Camara et Yelena Paranto de Prune, qui ont rencontré Morgane Tanguy, cofondatrice de la ferme du Contrevent. Écoutez.
Pensée locale. Un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire.
Eh bien, moi c'est Morgane, je suis cofondatrice de l'association La Ferme du Contrevent. On se trouve quartier nord de Nantes, quartier de la Boissière. Et je vais vous présenter l'association, le lieu, la ferme, ce qu'on y fait, pourquoi, avec qui et comment. Ici, en fait, on est sur un terrain qui est familial. Les propriétaires sont cofondateurs de l'association avec nous. Et hop, tenez, entrée, on arrive sur donc, toute cette zone. Vous voyez jusqu'au portail, c'est ici que se trouve la ferme. C'est ici que tout se passe. Donc Pierre-Yves et Claire, qui sont les propriétaires du lieu, sont les parents de Maxime, qui est un ami d'enfance, qui est également cofondateur. On est 5 à avoir cofondé le projet. Hugo nous a rejoint ensuite quelques mois après la création de la ferme et on a déposé les statuts de l'asso en 2020. Donc on est vraiment une toute jeune association. Ce qui se passe ici, c'est qu'on est à mi-chemin entre la ferme de production et la ferme pédagogique. Donc il y a quand même pour nous l'ambition de produire, de prouver que c'est possible de produire des légumes même en zone urbaine, mais aussi à une forte volonté que ce soit un lieu d'échange, d'expérimentation, qu'on teste, ce qui est possible de faire en ville, et surtout de permettre à des gens de venir pour eux-mêmes tester des choses qu'ils puissent ramener chez eux ensuite, que ce soit sur le balcon, sur un bout de terrasse ou même dans leur jardin, s'ils ont envie de se lancer dans le potager. L'idée, c'est que ce soit vraiment un lieu d'échange, d'expérimentation collective, d'apprentissage, de rire aussi, de bon temps et une manière de se réapproprier son alimentation en ville. Donc c'est vraiment autour de ces notions-là qu'on s'est regroupé et que le projet s'est construit petit à petit. Aujourd'hui, on est aidé par de nombreux bénévoles, dont certains viennent toutes les semaines depuis plus d'un an et demi maintenant, pour nous aider à faire vivre l'association. Le mot collectif, il est vraiment au centre du projet. Il y a eu énormément de chantiers participatifs, énormément de zones ont été réfléchies, inventées à plusieurs. Et ça, c'est quelque chose qui nous plaît beaucoup et ça fait la force de la ferme. On n'a pas encore une production monstrueuse, et c'est pas notre souhait dans tous les cas. La production de légumes, elle va à nos adhérents, aux adhérents de l'association. Pendant la période hivernale où la production était un peu moins soutenue, on a mis en place des paniers qu'ils peuvent récupérer deux fois par semaine. Donc on leur dit ce qui est disponible semaine après semaine. On leur dit les légumes qui ont poussé et ils choisissent ce qu'ils ont envie d'avoir dans leur panier. Et l'année dernière, on avait mis en place jusqu'au mois de fin octobre, si je ne dis pas de bêtises, un marché à la ferme, donc à l'entrée de la ferme, toutes les semaines. Ça, on a vraiment hâte que ça reprenne parce que c'était vraiment un point de retrouvailles dans la semaine. Ça rythmait un peu la semaine avec les habitants du quartier et il y avait cet effet un peu on se retrouve au marché, on discute, on se donne des nouvelles et c'est même devenu un peu un point de rencontre entre certains habitants du quartier. Et c'est là que l'enjeu de s'insérer dans le tissu aussi du quartier a pris tout son sens et on s'est dit que cette vie de quartier qu'on cherchait, c'était ça aussi.
Pensée locale, un enjeu de société.
Qu'est-ce que je mange? D'où ça vient? Est-ce que c'est bon pour ma santé? Est-ce que c'est bon pour la planète? Est-ce que c'est juste pour la personne qui a produit ce légume, par exemple? Ça a vraiment été les réflexions de base. Et l'idée, c'était de produire une nourriture qui soit à la fois respectueuse de la terre, des personnes qui vont consommer et de la personne qui a produite. En ville, ça arrive parfois facilement qu'on soit déconnecté finalement. On achète et puis on pense pas à toute la chaîne qu'il y a eu avant et le chemin qu'a fait le légume depuis la graine jusqu'à notre assiette, quoi. Et c'était cette volonté de retracer ça et surtout de pouvoir échanger autour de ce processus en fait et être plusieurs, avoir une réflexion collective autour de ça, reprendre un petit peu, pas possession, mais une certaine action sur son alimentation, en montrant que en ville, c'est possible aussi à son échelle. La ferme, elle n'a pas vocation à nourrir tout un quartier, mais que chacun peut être acteur en fait de ça et d'un mieux consommer, peut-être un mieux manger, ou du moins à la hauteur de chacun, faire de son mieux pour avoir une alimentation et une consommation respectueuse de la terre et des hommes.
C'était Pensée locale, un enjeu de société. Une émission de La Frappe, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
Un reportage d'Antoine Camara et de Yelena Parento pour Prune.
Vous écoutez toujours l'agité du local et vous êtes au bon endroit puisque vous êtes sur l'autre radio. Dans quelques minutes, on a rendez-vous avec la justice, comme rarement vous en entendrez parler. Ça sera la chronique de Priscilla Mignard. Mais avant ça, Lucie, on ne ferait pas une petite pause musicale, s'il te plaît?
Mais oui, avec plaisir. Et moi, je vous propose qu'on se pose ensemble avec la voix feutrée de l'Irlandaise Big Pig et son titre Perdida.
I just wanna lay here. Smoke my cig and drink my wine and think I wanna lay here until my hurting's done. I just wanna lay here and smoke my cig and drink my wine and think I wanna lay here until my hurting's done. Confío fácilmente en la gente y por eso ya no tengo nada más para darme fuerte. Soy cansada y mis huesos se sienten viejos. Creerme ya no tengo nada porque todo te lo dejo y yo
pasando. Y con mis dudas fumo más, sigo cantando. Como que sé que otra vez el sol va a subir, pero no quiero ver mañana si es sin ti. I just wanna lay here, smoke my cig, drink my wine and think. I wanna lay here until my hurting's done. I just wanna lay here, smoke my cig and drink my wine and think. I wanna lay here until my hurting's done. I should have never let you in. I should have never let you in, huh? I should have never let you in. 'Cause now I'm sitting here crying like a fool, and all the world has seen my pain. You know I love you all the same. I hope in time my heart will change, 'cause now I'm sitting here crying like a. I just wanna lay here, smoke my cig and drink my wine and think. I wanna lay here until my hurting's done. I just wanna lay here, smoke my cig and drink my wine and think. I wanna lay here until my hurting's done.
Elle parle franchement, elle parle juridique. En tout cas, quand elle arrive dans l'émission, on a déjà hâte qu'elle commence. C'est notre chroniqueuse Priscilla Mignard. Alors Priscilla, quel est le thème de votre chronique aujourd'hui ?
Bonjour Margot, bonjour mes petites robes noires à paillettes. Le thème de la chronique de cette semaine est « Les symboles de la justice ». Un thème moins juridique que d'habitude, plus fun, moins arté, plus W9. Par symbole de la justice, j'entends les emblèmes communément utilisés ou reconnus pour représenter celle-ci en France. Ces symboles trouvent fréquemment leur origine dans la mythologie grecque, comme l'inspiration de J.K. Rowling. Eh ouais, je balance, thug life.
Vous n'aimez pas J.K. Rowling ?
Disons simplement qu'elle n'est pas prête de m'envoyer un ballotin de dragée surprise Bertie Crochu, celle-là. Bref, mythologie grecque oblige, pour représenter la justice, au début on a choisi Xena la guerrière. Mais trop conforme à la réalité de la puissance féminine, du coup on s'est rabattu sur Thémis, plus de docilité et moins de cuir. Mes petits requins marteaux de la justice, Thémis est donc une déesse. Bon ben un peu comme vous les filles. Mmh. Son rôle est de préserver la bonne entente entre les dieux et elle a le don de prédire l'avenir. Bon, elle a un peu foiré dernièrement parce que ça fait quand même 13 ans qu'elle parie sur la victoire de la France à l'Eurovision. La justice est aveugle, serait-elle sourde aussi ?
Ah, la justice est aveugle ?
Oui, car Thémis est souvent représentée avec un bandeau sur les yeux, mais aussi avec une balance dans une main et un glaive dans l'autre. Elle est chargeasse, la meuf. Bon, comme moi à la sortie de Sephora, le jour du Black Friday. Hein. Et puis franchement, c'est plutôt dangereux. Thémis a dans une main un objet contendant, la balance étant une arme par destination, et dans l'autre une arme de sixième catégorie, le glaive. Tout ça sans rien voir du tout. Bah, faut pas faire le malin et jouer à Colin Maillard avec elle, hein, ou tu finis en tartare. En vrai, mes petits témoins vengeurs, le bandeau sur les yeux représente l'impartialité. La justice, les yeux bandés, ne voit pas les accusés. Elle peut ainsi décider en toute objectivité. Ils avaient tout compris, le groupe Trust, dans leur chanson « Tu voudrais donner des yeux à la justice ». Mais ils n'avaient pas anticipé que la justice allait se prendre des balles de LBD dans les orbites lors des manifestations sociales. Bah oui, un foulard en soi, ça protège pas si bien que ça. Concernant le symbole de la balance, qu'elle soit portée par Thémis ou pas, elle nous vient de l'Égypte ancienne, comme Nagui. Elle était utilisée pour la pesée des âmes lors du passage du monde des vivants vers le monde des morts. Ce passage entre le monde des vivants et celui des morts, pour vous donner une idée, c'est là où est coincé Michel Drucker. Pour vérifier si votre âme est pure, on prend en considération vos actes sur Terre, peu important d'autres considérations comme votre intelligence ou votre physique. Oui, parce qu'on peut être moche, con, mais pur. L'un n'empêche pas l'autre, regardez Roselyne Bachelot. Oui, je sais, c'est gratuit. Plaisir d'offrir, joie de recevoir.
Mais alors, que représente cette balance ?
Ce symbole de la balance a été conservé de nos jours pour représenter l'équité dans le rendu des décisions de justice. Bon, accessoirement, c'est aussi mon signe astrologique, hein, balance. Quoi ? Dans mon casque, on me dit que c'est aussi le signe astrologique de Judas, Brutus, ou encore une fois, Roselyne Bachelot, damned. Enfin, mes petits Dupont-Moretti en culotte courte. Bon, taille XXL quand même, la culotte courte pour le coup. Concernant le glaive, celui-ci symbolise l'aspect répressif et vengeur de la justice. Il rappelle que le rôle de l'institution judiciaire est également de sanctionner. Chais, prends-toi ça dans la tronchetta. Bon, c'est pas écrit sur les frontons des tribunaux, ça, à ma connaissance, mais ça en jetterait.
C'est vrai.
Ce symbole de puissance rappelle que la justice n'est rien sans la force qui permet de la faire appliquer. L'épée et la balance sont donc complémentaires, voire indissociables. Comme le sel et le poivre, le FC Nantes et la défaite, ma mère et les chlamydias. J'ai envie de finir avec un autre symbole de la justice, le genou dénudé.
Vous êtes sûre, là ?
Oui, oui, Margot, dans l'Antiquité, pour implorer la pitié, la coutume consistait à enlacer le genou des puissants pour solliciter leur indulgence. La Belgique connaît bien ça. C'est ce qu'elle fait tous les 4 ans pour qu'on la laisse jouer la finale de la Coupe du Monde de football. Bon, aujourd'hui, la vérité, c'est qu'en tant que femme, si t'as le genou dénudé, tu risques plus d'être victime d'agression que d'indulgence. Pour conclure, mes demi-dieux de la rectitude, que ce soit par ses symboles ou ses représentations, la justice se base sur des valeurs ancestrales qui semblent universelles. Mais qu'en est-il quand une majorité de la population ne se reconnaît pas dans la mise en œuvre de ces beaux principes ? Antisocial, tu perds ton sang-froid ? Doit-on plutôt se fier à un tube de 1980 ou à des valeurs antiques ? Trust no one, je vous aurais prévenu.
Merci beaucoup, Priscilla. L'agité du local, c'est fini. Merci à Maëlle Ranou pour cet entretien. Merci à Priscilla. Et bien sûr, merci à toi, Lucie. Toute la programmation des émissions est chaque jour disponible sur notre site internet, l'autreradio.fr. Mais on vous en donne un avant-goût tout de suite. Qu'est-ce qu'on écoute à 19h, Lucie ?
Eh bien, la soirée commence philosophiquement, j'ai envie de dire, avec la sagesse de Tug. Et aujourd'hui, l'émission nous explique que la philosophie ne conduit pas à la sagesse. Elle fait simplement éprouver le désir de savoir.
On continue ensuite en musique et nous ne sommes pas les seuls, à part les festivals, je crois.
Et oui, à 21h, c'est All Blues qui arrive sur les ondes de l'autre radio. Aujourd'hui, c'est une émission avec une heure consacrée au festival Farm et Village à Drouge, en Ille-et-Vilaine.
Moi, je vous dis à demain pour la dernière agitée du local de la semaine. Nous continuerons à couvrir ces élections européennes qui, je vous le rappelle, auront lieu le 9 juin. D'ici là, prenez un peu de temps pour bien comprendre et écouter ce que chaque liste candidate souhaite soutenir au Parlement pour ces 5 prochaines années. Et en même temps, pour toutes et tous, continuez à faire le bien.
Mince, c'est fini et j'ai loupé un bout de l'émission.
T'inquiète pas, tu peux la réécouter en podcast sur l'autreradio.fr.